franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'ivresse et l'ivrognerie.
Les princes de la cuite, les seigneurs, ils sont à 100 000 vers de vous. Eux, ils tutoient les anges.
D'un côté, il y a la culture de l'enivrement. La réalité n'est qu'une illusion due à l'arrêt momentané de la boisson. Alors autant en faire abstraction, et de la société aussi, parce que pour faire société, mais sans elle, la réalité et la société, il faut être entre ivrognes. De l'autre côté, il y a l'exercice de la raison et le contrôle de soi. Ce sont de vieilles idées chrétiennes prolongées par le patient processus de civilisation des mœurs à l'œuvre au fil de l'Ancien Régime. Devant sa conscience, devant les autres, il faut se présenter en bon ordre de marche. Le face-à-face de ces deux cultures est très ancien. En France, les autorités civiles ont commencé à développer une stratégie de lutte contre l'ivrognerie dès le XVIe siècle. Évidemment, même renforcée par le discours des clercs, des philosophes, des médecins, cette stratégie a été déjouée avec obstination, mais les auditeurs n'ont pas besoin de la marche de l'histoire pour dater la capacité des Français à boire et à ruser. Elle vient, disait Alexandre Vialatte, dont on célèbre justement le centenaire de la plus haute antiquité. Autre vieux sage, tricentenaire, lui, Rousseau, il disait, et le propos est valable pour la boisson comme pour le reste, ne cherchons pas la chimère de la perfection, mais à faire le mieux possible. Mathieu Lecoutre, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Ivresse et ivrognerie, le titre de votre thèse et d'un livre aux presses universitaires de Rennes, accouplé judicieusement avec les presses François Rabelais de Tours. Alors les maîtres que vous avez fréquentés disent, c'est un jeune historien mais il a du coffre et du bouquet, non ? Un peu de vocabulaire, pas de vocabulaire œnologique, mais médical. On ne va pas parler d'alcoolisme aujourd'hui. L'alcoolisme, ça date de...
De 1849. Oui, c'est créé, c'est un mot créé par un médecin suédois.
Et avant, dans la période qui va nous intéresser du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, on parle d'ivresse, on parle d'ivrognerie, en faisant quelle distinction ?
Alors souvent, les deux termes signifient la même chose. Lorsqu'on lit, par exemple, les essais de Montaigne, on s'aperçoit que Montaigne fait régulièrement la confusion entre ivresse et ivrognerie. L'ivresse, en théorie, c'est un comportement circonstanciel, c'est-à-dire que l'individu a bu en excès, a perdu sa raison. L'ivrognerie, c'est la répétition de ce comportement-là. Mais la confusion est fréquente pendant tout l'Ancien Régime.
Dans votre cave, il n'y a pas que des grands auteurs comme Montaigne. Vous avez, j'imagine, eu un travail d'archives assez plaisant à faire.
Oui, j'ai utilisé des archives très variées et évidemment plaisantes. Ça allait de la peinture du XVIIIe siècle, par exemple Nicolas Lancret avec le déjeuner au jambon, où on voit de nombreuses bouteilles de champagne consommées par les joyeux enivrés. Mais j'ai également consulté des archives judiciaires pour aller au cœur des cabarets pour voir comment buvaient les Français et les Françaises de l'époque.
Je suis sûr que vous n'avez pas eu le temps de voir assez de films. Heureusement, nous avons des ressources.
Vous avez sorti le vitriol ?
Pourquoi vous dites ça ?
Pourtant, on est honnête.
Vous êtes franchement malhonnête. Au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles.
Allez.
C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein ?
J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Quand même un mec fait plutôt une boisson d'homme.
Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois.
J'ai trouvé un goût de pomme.
Il y en a.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave.
Chez. Il y en a aussi.
Si la référence au tonton buveur ne paraît pas assez savante au jury de nos auditeurs, vous pourriez vous citer l'académicien Roger Caillois, qui dirait de cette séquence que c'est une scène de compétition, parce que dans le jeu de l'ivresse, il y a la réciprocité.
Effectivement, Roger Caillois s'est intéressé au jeu. Il a mis en évidence une classification des jeux. Et dans cette classification ressortent les jeux de compétition, les jeux d'ivresse, les jeux d'enivrement corporel. Voilà. C'est une sorte d'échange entre les buveurs pour savoir qui boit le mieux, qui va pouvoir enivrer l'autre, qui va pouvoir conserver sa raison le plus longtemps possible, un peu à la manière de Socrate dans la lointaine antiquité grecque.
Eh bien, Blier, Ventura, Jean Lefebvre et Francis Blanche n'y avaient pas songé.
On peut comparer Jean Lefebvre à Socrate. Voilà.
D'accord, ben ça commence bien. Dans la période qui précède celle qui vous intéresse, disons qu'on va être dans la première partie vers 1400-1500, il y a combien de centaines de milliers d'hectares de vignes en France?
Alors, vers 1500, il y a environ 1 million d'hectares.
1 million d'hectares.
1 million d'hectares de vignes en France. À la veille de la Révolution française, 1789, il y en a environ 1,5 million.
Oui, mais n'allons pas trop vite dans l'accroissement. C'est une ressource irremplaçable pour ceux qui la possèdent.
Effectivement, oui, effectivement. Les vignerons consomment leur propre vin. Et puis, les bourgeois dans les villes peuvent également offrir une partie de leur vin à leurs domestiques, à leurs valets, à leurs familiers, finalement.
Quand ils n'organisent pas de grandes fêtes, parce que c'est une tradition municipale,
oui,
royale aussi, d'offrir des réjouissances, arroser fastueusement le vin en fontaine, coule comme l'eau, et tous, à tasse pleine, vont boire au tonneau.
Ça, je m'en souviendrai de ce mois d'octobre. Enfin, je ne me trompe pas, là. Mais c'est bien ici qu'elle était, cette fontaine. Place du Change. Pas d'erreur. Une fontaine qui débite du vin. Vous avez déjà vu ça, vous? Et du bon, attention, pas du 10 degrés, non. Mais d'un côté, un petit vin blanc, un petit vin connais sec de 87, de l'année de la comète, et de l'autre, un clairet. Il faut dire que pour ce qui est de rigoler, on a rigolé. C'est pas tous les jours que Lyon reçoit la visite d'un roi.
Sketch de Morard.
Oui, ce sketch permet de rappeler aux auditeurs de France Inter que, à l'époque médiévale et à l'époque moderne, les municipalités offraient des fontaines de vin aux habitants de la ville.
C'est une recommandation que vous faites encore ?
Non, je ne m'y risquerai pas. Et nous avons des cas extraordinaires. Par exemple, en 1729, à Bordeaux, les Jurats de Bordeaux, pour la naissance du dauphin de Louis XV, offrent 10 000 litres de vin aux Bordelais. C'est une sorte d'évergétisme hérité de l'Antiquité.
Oui, c'est quand on annonce à coups de canon les naissances royales.
Exactement.
À propos de coups de canon, les débits de boissons. Alors, les débits de boissons, il y en a beaucoup en 1400, 1500. Il ne faut pas imaginer qu'ils ressemblent en quoi que ce soit à nos cafés, à nos brasseries, où règne un certain nombre de codes.
Pas du tout. Alors, nous pouvons savoir à quoi ressemblaient les débits de boissons grâce notamment à la peinture. Alors, notamment la peinture flamande. Et il nous montre des débits de boissons qui sont très sombres, très sales, avec quelques tables, quelques chaises en bois. Mais il n'y a pas l'élite sociale qui, à cette époque-là, va boire dans les débits de boissons. Ce sera plus tard.
Alors, dans les débits de boissons, on dit à votre santé, comme dans les banquets, depuis la plus haute Antiquité, ça veut dire que ça apporte la santé, le vin ?
En tout cas, le boire du vin avec quelqu'un, c'est une sorte de poignée de main. Donc on souhaite la santé à l'autre buveur. À l'époque moderne, certains médecins estimaient, vous avez raison Jean Lebrun, que boire du vin, parfois en excès, une fois par mois, permettait de redonner la santé.
C'était des humoristes, ça.
Ils étaient partisans du système humoral, système des humeurs, totalement abandonné des médecins d'aujourd'hui, évidemment.
Oui, bien sûr, parce que ce sont maintenant des hommes de science. Chez les hommes de culture de notre époque, 1400-1500, on ne traite pas les grandes questions autrement que devant de petits flacons.
Oui, boire du vin avec quelqu'un dans un cabaret permettait de, en quelque sorte, de clore une discussion, de savoir également ce que son interlocuteur a derrière la tête. La vérité est dans le vin. Et que ce soit des élites ou que ce soit au niveau le plus bas de la société, par exemple, lorsqu'il y avait des affaires qui étaient réalisées dans des marchés, eh bien, il était, la tradition était de finir en buvant un coup avec son interlocuteur. Alors je vous laisse imaginer dans quel état se trouvaient ceux qui travaillaient.
Mais vous parlez des cabarets, mais les hommes de cabinet. Alors votre livre est coédité, c'est judicieux, par les presses universitaires de Rennes. En Bretagne, on apprend encore à bien boire aux jeunes, bien boire. Et par les presses universitaires François Rabelais de Tours. On pense tout de suite à Rabelais.
Oui. Alors Rabelais, évidemment, est très connu aujourd'hui pour son discours sur le vin. Il explique que de vin, divin, on devient. C'est-à-dire que boire du vin permettrait de rejoindre le divin. C'est un discours qu'il faut expliquer par la philosophie de l'époque, du XVIe siècle, une philosophie qui domine, le néoplatonisme, et qui essaye de faire un syncrétisme entre le christianisme et puis les religions antiques, faire une sorte de syncrétisme entre Jésus et Dionysos.
Mais alors, si je comprends bien, si je perds le contrôle de moi-même, ça va me permettre de rejoindre le monde des idées.
D'après Rabelais, oui, puisqu'il s'appuie notamment sur saint Paul. Saint Paul explique que pour comprendre le message divin, il faut être hors de soi. Hors de soi, ça signifie fou. Eh bien, la folie est tout à fait accessible, d'après la manière de penser de l'époque, par l'ivresse.
Alors, vous parlez de saint Paul, mais il fait aussi recours, le bon Rabelais, à des cohortes d'anciens.
À des cohortes d'anciens, comme Hippocrate, par exemple.
L'humoriste, enfin le médecin qui s'intéressait aux humeurs.
Qui justifie une ivresse mensuelle.
Alors, imaginez une réunion, Jacques Tarroni l'a fait pour un feuilleton de France Culture, dans son cabinet, entre le cardinal du Bellay, l'humaniste bien connu, et Rabelais, ici interprété par Pierre Bertin.
L'art de célébrer la boisson se perd. Je voudrais que les écrivains s'intéressent un peu au vin, comme nos antiques.
Homère n'écrivait, nous dit Horace, qu'après boire.
Eh bien, autant en faisait Ennius.
Et Ovide.
Et Properse.
Et Catulle.
Et Cornelius Nepos.
Tous deux étaient amis et buvaient ensemble. Et Suétone.
Oh, celui-là, il buvait plus que ses Césars.
Et Virgile.
Ah, juste. Il donne des conseils aux vignerons. Primus humum fodito, postremus metito.
Géorgique, au deuxième chapitre.
Oh, exact, Rabelais. À Virgile.
À Lucrèce.
À Caton.
Caton d'Utique?
Non, Caton l'ancien, qui a pris le grec vers la fin de sa vie.
Au grec.
À Échille, à Apollonius de Tyane.
Nous avons oublié Euripide.
Et notre carafon est vide.
Oh, 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 je puis. Oh, oh, je puis. Oh, oh, je puis. Oh, oh, je puis. Oh, je puis. Oh, je puis. Je puis. Oh, je puis. Oh, je puis. Oh, je puis.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ivresse et ivrognerie dans la France moderne avec Mathieu Lecoutre. C'était une chanson de la Renaissance, de l'époque de Rabelais, célébrant vin françois et signé Claudin de Sermizy avec l'ensemble Clément Jeannequin. Et il était question du rouet. Alors si on parlait un peu du rouet, de ce que fait dans cette époque de la Renaissance Mathieu Lecoutre, le roi de France.
Alors parlons de François Ier. Parlons de François Ier. François Ier, en 1536, publie un édit répressif.
1536, c'est tôt.
Oui. C'est tôt, oui. C'est tôt puisque l'historiographie estimait jusqu'alors que la première fois que les autorités civiles prenaient conscience de la dangerosité de l'ivresse, c'était plutôt à la fin du XVIe siècle. Et là, on est dans la première moitié du XVIe siècle.
Donc, ce n'est pas le Bourbon Henri IV, c'est le Valois, voilà,
le Valois Ier. François Ier. Le Valois François Ier criminalise l'ivresse, c'est-à-dire que, théoriquement, les Français sont dans l'interdiction de se trouver en état d'ébriété dans leur royaume, sous peine de se voir enfermés au pain et à l'eau la première fois, et puis s'il y a récidive, multiple récidive, au bout de la quatrième fois, d'être essourillé. Cela signifie d'avoir les oreilles coupées. Dans la réalité, personne n'a jamais été essourillé parce qu'il était retrouvé ivre dans le royaume.
Peut-être des cellules de dégrisement de temps en temps, mais voilà. À peine François Ier a-t-il prononcé cet édit, qui était assez peu connu, qu'on voit ailleurs, au Parlement de Paris, chez les autorités locales, chez ses successeurs, les petits Valois, d'autres tentatives pour essayer de contrôler l'usage du vin.
Oui, puisqu'en fait cet édit très répressif en théorie de 1536 est finalement inapplicable. Donc ses successeurs se sont aperçus de cette réalité. Ils ont essayé d'attaquer indirectement l'enivrement, le problème de l'enivrement dans le royaume, en s'attaquant au lieu de consommation du vin essentiellement.
Et c'est à cette époque-là, dès le XVIe siècle, qu'on imagine de créer des horaires.
Exactement.
Pour les débits de boissons.
Exactement. On invente les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. On interdit, cela dépend des paroisses, on interdit d'ouvrir les cabarets pendant la messe. On interdit d'ouvrir les cabarets ou les tavernes le dimanche. On essaie de sanctuariser le temps divin.
Parce qu'on sait déjà au XVIe siècle que l'ivresse va concerner d'abord des gens de catégorie assez jeunes, plutôt l'après-midi à 14h et plutôt le dimanche qu'en semaine.
Alors, plutôt l'après-midi à partir de 14h. Dans mes sources, j'ai trouvé peu d'enivrés le matin. Le jour où traditionnellement on s'enivre, c'est le dimanche, c'est-à-dire le jour normalement le plus sacré en théorie. Et on commence à s'enivrer dans l'après-midi et jusqu'au bout de la nuit, alors que c'est également interdit théoriquement de s'enivrer la nuit.
Alors s'enivrer le dimanche, le jour du Seigneur, ça tient de la gourmandise, péché grave, ça tient d'un autre péché qui est le blasphème?
Alors, s'enivrer tient du péché de gourmandise. L'ivresse est vue comme une partie du péché de gourmandise. Et ceci depuis Saint-Paul que j'ai évoqué tout à l'heure.
C'est-à-dire que du côté de l'Église, il y a tout un discours religieux qui va en parallèle avec le discours du pouvoir civil. On ne cesse de redire que la raison, c'est nécessaire à la foi et qu'abandonner la raison par l'ivresse, c'est s'abaisser soi-même.
Alors, c'est l'Église, en fait, qui, historiquement, la première, s'attaque à l'ivresse et en fait un péché. François Ier fait passer un péché d'un crime. Il tente de criminaliser un péché. Il est dans une posture de construction de l'absolutisme de droit divin. Et alors, d'après moi, il est plus dans une posture théorique qu'applicable.
Mais du côté de l'Église, on manifeste encore parfois une certaine bienveillance. Souvenez-vous de Noé.
Oui.
Noé, il était ivre dans la Bible.
Bien sûr.
Mais c'était pas volontaire.
Lot aussi.
Oui. Donc quand c'est pas volontaire, ce n'est pas si grave. Et puis ça peut être lié à la pauvreté, l'ivresse. Et alors, comment démêler de la pauvreté et de l'ivrognerie, laquelle est la cause et laquelle est la conséquence? Ainsi pensait le bon monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul.
Vous affolez donc pas. C'est le type du premier. Depuis qu'il travaille plus, il bat sa femme toutes les nuits.
Les enfants vont essayer de dormir dans le couloir. L'homme et la femme finiront par s'arranger. Ils boivent autant l'un que l'autre. Vous voyez, tout va se taire. Enfin, ils font moins de bruit. Ça fera un enfant de plus pour venir partager les bienfaits de ce monde avec eux.
On s'en doute pas dans les églises, hein? Qui sait même si le bon Dieu s'en doute? Ça dort pas, les pauvres, la nuit. Ça s'insulte.
Ça se bat. Et ça en fait d'autres.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il demande dans le film de Maurice Cloche, 1947. Vous étiez trop jeune, Mathieu Lecoutre. Monsieur Vincent Pierre Freinet.
Oui. L'Église explique finalement que, à un double discours, l'Église explique que l'ivresse est en théorie un péché mortel, mais le problème est que dans la Bible, Noé et Lot, deux patriarches, étaient enivrés. Donc, les théologiens sont obligés de construire des circonstances atténuantes aux enivrés. Et donc, parfois, l'ivresse est un péché mortel, parfois un péché véniel, parfois une simple faute. N'oublions pas que le vin est le sang du Christ.
Mais du côté des savants et des philosophes, il y a un discours de plus en plus détaché de la religion et du thème du péché.
Exactement.
Alors là, l'ivrognerie, c'est le vice.
Exactement. À partir, surtout, du XVIIe siècle en France, avec le développement de ce qu'on a appelé l'honnête homme, on voit de plus en plus des discours répressifs qui s'attaquent au côté vicieux de l'ivresse. Pierre Bardin, un des théoriciens de l'honnête homme, explique qu'un honnête homme boit du vin sans s'enivrer, pour diverses raisons. Parce que l'ivresse trouble le jugement, elle déshumanise, elle rabaisse au niveau des animaux quelqu'un qui, en tant qu'honnête homme, devrait être un courtisan, sachant contrôler ses émotions. Également, l'ivresse crée des dépenses ruineuses pour le royaume et pour la famille. Dernière idée, dans la famille, cela renverse l'équilibre naturel, qui met au sommet le père et, d'une manière inférieure, les enfants et l'époux. Si le père est ivrogne, qui dirige le foyer ? C'est la mère, c'est la monarchie absolue qui est renversée par cette ivresse du père de la famille.
Regardez chez Molière. Sganarelle et Martine. Alors, si Sganarelle laisse tout à Volo, la femme ne peut pas le tolérer.
À portée d'outre-Manche, voici une nouvelle mode qui sévit actuellement en Bretagne.
Celle... Non, pas tout de suite la Bretagne, Mathieu Lecoutre. Encore que vous n'avez pas dit que l'édit de François Ier en 1536 touchait d'abord la Bretagne. On en parlera dans un instant. Là, nous étions dans Le Médecin, malgré lui. Tout va bien, non Non, Le Médecin, malgré lui, est cul par-dessus tête. Vous pouvez peut-être nous raconter.
Bien sûr.
Sganarelle et Martine.
C'est en plus une pièce très intéressante pour comprendre le théâtre de Molière. Le Médecin, malgré lui, propose Sganarelle, un enivré sur scène. Il se promène avec sa bouteille de vin.
C'est ce qu'on devait entendre, ça disait glou-glou.
Exactement, glou-glou, ma bouteille chérie ou quelque chose comme cela. Et il a un jeu d'acteur que j'appelle du comique d'enivrement. Et c'est la seule fois dans toutes les pièces de Molière que l'enivré boit sur scène. On peut, chez Molière, régulièrement accuser quelqu'un d'ivrognerie, mais il ne boit pas sur scène. Il n'y a que dans cette pièce-là qu'il boit sur scène.
Eh bien, je crois qu'on l'a retrouvé. Votre description est très utile parce qu'on situe beaucoup mieux le moment où nous nous trouvons. C'est au théâtre ce soir. Vous étiez trop jeune, Mathieu Lecoutre, avec Jean Richard dans le rôle de Sganarelle et Jacqueline Jeffort. Si tout va bien, nous sommes en temps de grand froid dans le rôle de Martine.
Bouteille, mamie, ils sont doux, mon petit glou-glou.
J'ai bien bu et bien mangé, mais que tout le monde soit sous dans ma maison.
Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même?
Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît.
Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches.
Vous objets de mes voeux, vous frotterez les oreilles.
Ivrogne que tu es.
Vous battrez.
Sac à vin.
Vous rosserez.
Infâme.
Vous étrillerez.
Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, gandardeux, pélitre, frigon, marron, voleur.
Ah, vous en voulez donc un
Le médecin, malgré lui, vous avez bien compris. Le médecin. Alors, on en était resté aux humoristes, enfin ceux qui pensaient que c'était bon, une fois par mois, de s'enivrer, parce que c'était un élixir de vie, comme ça, qui vous passait à travers les humeurs. Et à partir de la fin du XVIe, d'un médecin qui s'appelle Jean Mouzin, 1612, ça change.
Oui, ça change. C'est le premier médecin à s'intéresser réellement à cette question. Il publie un discours de l'ivresse et de l'ivrognerie. Et il explique que non, il ne faut pas s'enivrer une fois par mois pour évacuer les humeurs qui stagnent. C'est poursuivi par la suite, notamment à Paris, puisque les premières thèses de médecine qui confirme les positions de Jean Bouzin datent de 1643 et de 1667. Mais nous trouvons encore dans les sources, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, des médecins qui recommandent toujours ce vieux principe hippocratique. Il faut s'enivrer une fois par mois pour rééquilibrer les humeurs dans le corps.
Dites-moi, il y a des tableaux extraordinaires dans votre livre qui présentent les ingrédients qu'on peut utiliser comme remède contre l'enivrement. Alors l'eau est rarement recommandée, c'est curieux.
C'est vrai, c'est vrai.
Pourquoi ?
Question d'insalubrité.
Et l'absinthe, c'est mieux.
Ça dépend. Assorti, associé à d'autres aliments, pourquoi pas. Pour guérir l'ivresse, qui provoque dans le corps un excès de chaleur et d'humidité, il faut consommer des aliments secs et froids.
Alors la sobriété, c'est la recommandation des médecins. L'honnêteté et la civilité, c'est la recommandation des philosophes et des savants. Vous étudiez ce qui est dit dans l'encyclopédie, où il y a un article de Dolbach assez drôle qui dit « Oui, c'est bien beau tous ces discours répressifs, mais c'est quand même très rétributeur, les taxes contre le vin. » Et vous avez cité des chiffres dès le début de l'émission. Au total de toute cette politique, 1 500 000 hectares de vignes contre 1 million en 1500 au moment de la Révolution. Et sans parler de l'augmentation des parcelles qui permettent de produire de la bière, du cidre,
Exactement.
Du poiré et de l'eau de vie.
Voilà.
Donc, inefficacité ?
Inefficacité des discours, oui. Puisqu'au même moment, finalement, nous observons un accroissement de la consommation de boissons enivrantes du 16e au 18e siècle.
Dites-moi, parfois, l'historien est comme un homme ivre, il vacille. S'il est le son de l'histoire, avec quelque utilité, on le saurait depuis longtemps. Juste un petit éclairage sur l'actualité. On a entendu le mot Bretagne inopinément, curieusement, tout à l'heure. Le binge drinking y est pratiqué.
Apportée d'outre-Manche, voici une nouvelle mode qui sévit actuellement en Bretagne, celle de la beuverie organisée qui consiste en une soirée à consommer le plus d'alcool possible. Reportage Jacques Devaux, Gabriel Camilla.
Chaque jeudi soir, les rues de Rennes se remplissent de centaines de jeunes, étudiants, lycéens. L'alcool est partout. Les jeunes consomment dans la rue des mélanges confectionnés par leurs soins. Des alcools forts qui font des ravages.
Ça devient presque déconnecté aussi de la fête. C'est un espèce de... on consomme pour aller jusqu'au bout. Il y a de plus en plus de coma éthylique aussi.
C'est ça, c'est comme ça, on est là pour faire la fête et quand on fait la fête, il faut boire.
Beaucoup s'interrogent sur ces conduites addictives. Mal de vivre, angoisse de l'avenir, mais aussi reflet d'une jeunesse qui ne se voit opposer aucune limite.
Oui, c'est entendu, François Ier a d'abord légiféré sur la situation de la Bretagne en 1536, mais enfin, toute l'école alcoolologique de Bretagne vous dirait qu'il y a des causes extrêmement complexes au comportement particulier dans cette région. Et puis on a assez, dirait d'autres, du discours culpabilisant. Beuverie, a dit d'un ton pénétré la journaliste Françoise Laborde. Il y a toujours des stéréotypes dans le discours anti-enivrement.
Exactement, oui. Bien sûr, par exemple, les élites s'emparent de l'ivresse pour dénigrer des catégories sociales inférieures. Néanmoins, sur la Bretagne, Rabelais explique, dès le XVIe siècle, que les Bretons s'enivrent plus que d'autres.
Oui, bon, allez, je recommande votre livre, malgré ce que vous dites, « Ivresse et ivrognerie dans la France moderne », paru aux presses universitaires François Rabelais et aux presses universitaires de Rennes. L'alcoologue breton Guy Carreau avait demandé à Volinsky d'illustrer un de ses livres. Un monsieur dit à une femme, j'ai commencé par cesser de boire, ensuite j'ai arrêté les cigarettes, après j'ai cessé le sexe, qu'est-ce qui vous reste, dit la jeune femme. D'après vous, Mathieu Lecoultre, il reste la santé. Dans l'équipe technique Sandrine, Laurent Philippe Duclos à la réalisation, Jacques Sigal. L'émission était préparée par Franck Olivard avec Camille Poux-Jolaguier et Frédéric Martin. Tout à l'heure, débat autour de l'actualité scientifique, notamment le clonage de l'homme de Néandertal chez Mathieu Vidard. Et nous parlons de feu, la RDA, en contrepoint du feuilleton d'Arte. Adieu camarades, lundi prochain.